RCF. Catholique et société, avec Yann Lecoz, le regard d'un catholique aujourd'hui face aux multiples défis de son temps.
Bonjour Monsieur Janson, bonjour Yann. Ce matin, sans vouloir faire systématiquement des synthèses, au fur et à mesure que je vous ai écouté, j'ai l'impression qu'il y a malgré tout quelque chose, une valeur qui transcende, qui fédère un peu tous ces discours. En fait, on a parlé plusieurs fois du bien commun de l'entreprise. Alors, moi, bien commun, c'est l'intérêt général, si je comprends bien ce que vous dites.
Pas vraiment, non.
Alors, pouvons-nous éclaircir un peu ce qui, pour moi, semblerait une difficulté.
Alors, essayer de dire des choses complexes de façon simple. C'est un exercice compliqué le matin. La première chose, c'est la base, en fait, de la doctrine sociale de l'Église. Toute la doctrine sociale de l'Église est orientée vers le bien commun. Et la définition du bien commun, selon la doctrine sociale de l'Église, c'est en fait quelque chose de très particulier. C'est l'ensemble des conditions sociales qui permettent tant au groupe qu'à chacun de leurs membres d'atteindre leur perfection d'une façon plus aisée et plus totale. Qu'est-ce qu'on voit dans cette définition qui est, pour moi, d'une puissance assez extraordinaire? On voit que le bien, c'est d'abord les conditions d'obtention du bien. C'est-à-dire c'est le chemin qui va permettre d'arriver au bien et que ce bien, c'est le bien de chacun et c'est le bien de tous. C'est le bien de chacun des membres, des groupes, mais c'est le bien des groupes eux-mêmes. Et le but, c'est la perfection. Mais quand on se pose la question de la perfection, c'est la perfection par rapport à quoi?
Oui.
Et on pourrait dire, mais bon, c'est sympa la doctrine sociale de l'Église, il nous parle de perfection, mais enfin, on sait bien que la perfection, c'est pas de ce monde. Bon. Donc, est-ce que ça a un sens pratique?
C'est effectivement la question que je me pose.
Bon, merci beaucoup, moi aussi. Et donc, peut-être faut-il, pour tenter de répondre à cette question-là, dire ce qu'est le bien. C'est-à-dire, on sait dire ce que sont les biens matériels, les biens immatériels, etc. Par contre, le bien, on ne sait pas facilement dire ce que c'est. Alors moi, je vais vous donner ma définition, c'est la mienne, c'est celle qui fait du sens pour moi. Pour moi, le bien, en fait, c'est ce qui permet à tout être d'atteindre la plénitude de sa nature, c'est-à-dire d'atteindre pleinement ce pour quoi il est fait. Et pour prendre un exemple très basique, je dirais, quelle est la plénitude, quel est le bien de la citrouille? Bon, le bien de la citrouille, c'est d'être une très belle citrouille, et c'est pas comme dans les contes de fées de devenir un carrosse. Voilà ce que ça serait la plénitude de l'être. Donc qu'est-ce que c'est que la plénitude de l'être humain, des êtres humains qui travaillent dans les entreprises? Quelle est leur raison d'être? Est-ce que leur raison d'être est purement économique ou est-ce qu'il y a d'autres dimensions, et notamment une dimension spirituelle? Et puis, quelle est la raison d'être de l'entreprise elle-même, sinon de servir des clients? Donc viser la perfection de l'entreprise, c'est passer en fait par la perfection des personnes qui contribuent au travail dans les entreprises en tant que personnes et en tant que groupe.
Oui, mais quelle différence avec l'intérêt général, là?
La différence essentielle avec l'intérêt général, c'est que la notion de bien commun s'intéresse à chacun et à tous. C'est-à-dire que personne n'est laissé sur le côté, alors que dans l'intérêt général, on voit plutôt l'intérêt du plus grand nombre.
Majorité, minorité.
Voilà, des règles de majorité. C'est la loi de la majorité qui l'emporte par rapport à la minorité. Le bien n'est pas de cette nature-là.
Ça veut dire donc que le bien commun, c'est la préoccupation essentielle du dirigeant. Et que ce n'est pas une question d'élection, une question de majorité ou de minorité.
À nouveau, on ne peut pas comprendre cette notion de bien commun sans faire référence à des raisons d'être, à des finalités. Et donc, à la fois la raison d'être des personnes et la raison d'être des institutions que sont les entreprises. Et donc, si on n'est pas d'accord sur ces définitions-là, évidemment, on ne comprend pas ce que l'on fait, on ne comprend pas ce qui serait nécessaire pour contribuer au bien commun.
En d'autres termes, le souci de perfectionnement de chacun, de chaque collaborateur, en même temps que le souci du dirigeant, pour l'entreprise, de faire progresser l'entreprise jusqu'à sa perfection. Et ça, pour vous, c'est la dimension politique du dirigeant.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, cette dimension politique, elle est suggérée par la définition de la doctrine sociale de l'Église. Quand on parle de conditions sociales, en fait, c'est quoi les conditions sociales? De qui dépendent-elles? Sinon des dirigeants, ce sont les dirigeants qui mettent en place les conditions nécessaires l'atteinte du bien commun. Le souci du bien commun, c'est ce qui légitime l'exercice du pouvoir, que ce soit dans l'entreprise ou ailleurs. C'est la raison principale pour laquelle nous acceptons d'être dirigés. S'il n'y avait pas ce souci du bien commun, je ne vois pas pourquoi on accepterait d'être dirigé, que ce soit dans l'entreprise ou ailleurs.
Je comprends mieux la réaction. La question que posait je ne sais plus quel pape, disant comment se fait-il que l'homme sorte avili alors que l'entreprise sort de l'atelier enrichie. Et je pense qu'effectivement c'est bien cette question liée au bien commun.
Eh bien, nous y reviendrons dans quelques instants. Je vous propose une petite coupure, une petite pause musicale et nous reviendrons sur cette question. Nous nous retrouvons et je voudrais dire que si, puisque nous parlions du bien commun et du bien commun de l'entreprise, malgré tout, à la tête de l'entreprise, il y a des dirigeants. Alors, ils ont vraisemblablement un rôle prépondérant dans la poursuite, l'avancée, cette dynamique pour progresser dans cette direction du bien commun.
Alors, effectivement, les dirigeants ont un rôle essentiel, irremplaçable dans ce domaine. Quand on revient à la définition donc du bien commun proposée par la doctrine sociale de l'Église, on met l'accent sur l'ensemble des conditions sociales qui vont permettre au groupe, comme aux personnes qui en font partie, d'atteindre leur perfection. Dans l'entreprise, que sont ces conditions sociales? De qui dépendent-elles? En fait, pour faire simple, on va dire que c'est le cadre de travail, les références de travail, les façons de travailler, les règles de vie, les règles, on dirait, du vivre ensemble, d'une certaine façon, de la communauté de travail, qui sont voulues par son dirigeant, par son patron, pour servir de référence à chacun, et qui permettent d'unifier, d'une certaine façon, le fonctionnement de l'entreprise, à la fois autour du rappel de sa raison d'être, le service des clients, mais aussi autour du rappel de la façon d'être efficace tous ensemble, en ne négligeant personne. C'est-à-dire, à nouveau, dans cette conception du bien commun, il s'agit de prêter attention à chacun et à tous, en même temps, et sans mettre en compétition les uns avec les autres, sans négliger les uns par rapport aux autres. On s'occupe de tout le monde.
J'ai bien compris.
Excuse-moi Yann, mais ça me rappelle un grand groupe industriel français qui avait établi une sorte de charte. Il appelait ça ses principes d'action. Et un de ses principes disait exactement ceci: l'entreprise ne laisse aucun collaborateur seul au bord du chemin. Est-ce que ça pourrait être un des éléments constitutif?
C'est une indication qui me semble aller dans le bon sens, effectivement. L'entreprise ne doit laisser personne au bord du chemin, personne isolée. Donc, c'est à nouveau, c'est prêter attention aux gens, à chacun, pour autant qu'il y ait des encouragements à ce que des personnes s'occupent de ces personnes qui peuvent être en difficulté.
C'est que les gens aient un intérêt personnel à travailler dans le sens du bien commun, finalement, qu'ils y trouvent leur intérêt personnel.
D'où la nécessité de poser un cadre institutionnel qui rappelle en permanence les façons de faire, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, ce qui est réglo, ce qui n'est pas réglo, etc., ce qui va contribuer effectivement au développement de chacun, mais au développement des équipes et au développement de l'entreprise. Et il n'y a pas de contradiction au milieu de tout cela.
D'où vient toute la ligne de conduite que vous nous expliquez, qui se matérialisait notamment par ces fameux critères d'évaluation?
Et effectivement, le patron, donc, dans ses prérogatives irremplaçables, c'est celui qui exprime des attentes. C'est lui qui va dire ce qu'il attend de ses collaborateurs. Est-ce qu'il n'attend que du résultat ou est-ce qu'il attend une façon de parvenir au résultat?
Au fond, est-ce que, sans être trop trivial, c'est pas un petit peu ce qu'on appellerait les règles du jeu?
Alors, on peut appeler ça des règles du jeu, des règles de vie, des repères, mais qui sont autant d'obligations en réalité. C'est-à-dire que quand on parle de tout cela, On ne parle pas de souhait, on parle d'impératif. Si on est sérieux, on va parler d'impératif. Et c'est pour ça que le patron...
Impératif, est... ça veut dire... une obligation.
Mais bien sûr, c'est une obligation.
C'est-à-dire que vous sanctionnez celui qui joue pas, qui refuse de jouer.
C'est comme sur un terrain de sport, il y a des règles et il y a des arbitres pour faire respecter les règles et distribuer des cartons jaunes et parfois des cartons rouges. Et donc, il n'y a pas de jeu possible sans respect des règles. Enfin, tout le monde sait ça. Tout le monde sait qu'il n'y a pas de fonctionnement d'une collectivité, quelle qu'elle soit, possible, sans l'adhésion et le respect d'un certain nombre de règles de fonctionnement de cette collectivité. Et le garant dans une entreprise, le garant du fonctionnement, c'est le patron, c'est personne d'autre. Et donc c'est à lui de faire ce qu'il faut pour mettre en place les conditions qui vont permettre cela.
Est-ce que vos réflexions, on pourrait les transposer au niveau d'un pays de la même manière ?
Je suis à la disposition du pays pour donner des conseils.
Je pense que nous avons là effectivement une matière ambitieuse, mais en une phrase peut-être, juste pourriez-vous nous donner une sorte en guise de conclusion.
Une conclusion sur le bien commun, c'est pour moi, en fait, c'est une vision très réaliste, à la fois de notre nature humaine et des conditions d'harmonie de la vie en société. Et ce qui compte, c'est de réunir les conditions qui vont permettre des fécondations croisées, en fait, entre l'action. Le progrès des personnes et le progrès des groupes et des sociétés, des collectivités auxquelles ils appartiennent. Et on ne peut pas dissocier le progrès des personnes du progrès des collectivités et vice-versa. Et donc, il s'agit de fécondation croisée, et je trouve que c'est tout à fait passionnant dans le rôle d'un dirigeant de réfléchir à ce que sont ces conditions et à les faciliter, à les mettre en œuvre. Et la rétribution du dirigeant, c'est la fécondité dans le temps de tout ce cadre institutionnel qu'elle aura réussi à poser dans son entreprise pour l'atteinte du bien commun.
Eh bien, merci, Monsieur Janson.
Merci.
Et je l'espère peut-être à bientôt, car nous avons vraiment été passionnés en vous écoutant.